Merci d'écouter RFI. 8h à Port-au-Prince, 13h en temps universel, il est 14h ici à Paris. Dernière partie d'RFI Midi, avec Haïti à la une où les policiers exigent plus de moyens. Le syndicat SPNH17 réclame même la démission des autorités de transition si elles ne parvenaient pas à donner de gages significatifs avant mercredi prochain. Notre dossier du jour dans une école brésilienne où les téléphones portables sont interdits comme partout dans le pays. On reviendra aussi tout à l'heure sur la cérémonie des Oscars qui a eu lieu la nuit dernière à Los Angeles. Et puis, on vous retrouvera Serge Massot pour parler du lancement attendu tout à l'heure de la fusée Ariane 6.
Oui, la fusée européenne doit lancer aujourd'hui un satellite militaire, décollage depuis Kourou en Guyane prévu dans un peu plus de 4 heures.
À tout à l'heure. Mais d'abord, le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne Contner.
Les alliés de l'Ukraine ont du mal à parler d'une même voix.
Des alliés européens pour la plupart qui ont tenté de présenter un front uni hier à Londres. Et au lendemain de cette réunion au sommet, pas sûr que le résultat soit à la hauteur des attentes. Français et Britanniques ont étalé leur divergence ce matin sur la forme que prendrait une trêve en Ukraine. À en croire Londres, Keir Starmer et Emmanuel Macron ne se sont pas encore mis d'accord sur le projet de trêve d'un mois évoqué hier soir par le président français. Le point avec Romain Lemaresquier.
Les deux dirigeants semblaient au diapason ce dimanche. Pour preuve, avant le début du sommet de Londres, le Premier ministre britannique annonçait que son pays et la France travaillaient à un plan pour faire cesser les combats. Une rhétorique reprise par Emmanuel Macron quelques heures plus tard. Le président français annonçait un accord avec Londres sur une trêve d'un mois en Ukraine, dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques, selon les termes employés. Cette fin des hostilités ne concernerait donc pas les combats au sol, selon le président français, car elle serait trop difficile à contrôler du fait de l'immensité de la ligne de front. Il s'agirait là d'une première étape avant l'ouverture de discussions pour parvenir à un accord de paix. La deuxième phase de ce plan annoncé par Emmanuel Macron pourrait impliquer le déploiement de troupes britanniques et françaises en Ukraine. Mais pour que cela soit possible, la France et le Royaume-Uni attendent des garanties de Washington. Mais ce lundi matin, Londres tempère. Plusieurs options sont sur la table. Mais il n'y a pas d'accord sur ce à quoi ressemblerait une trêve, a annoncé ce matin le secrétaire britannique aux forces armées. Trouver une position commune s'avère complexe, sachant que personne ne souhaite tendre encore plus les relations avec Washington. Il faudra donc peut-être attendre le sommet européen extraordinaire prévu ce jeudi à Bruxelles pour qu'enfin un accord soit annoncé.
Au-delà du dossier ukrainien, le risque est de voir les États-Unis s'isoler du reste du monde, en tout cas des démocraties occidentales. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU se montre très inquiet par le chemin pris dans ce domaine des droits de l'homme par Washington. À Genève ce matin, Volker Türk a aussi tiré à boulet rouge sur Elon Musk et sur ses pairs, sans jamais les nommer. Mais tout le monde aura compris, écoutez.
A handful of unelected.
Une poignée d'oligarques de la tech non élus ont nos données. Ils savent où nous vivons, ce que nous faisons, ils connaissent nos gènes et notre bilan de santé, nos pensées, nos désirs et nos peurs. Ils nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et ils savent nous manipuler. Tout pouvoir, s'il n'est pas contrôlé, peut mener à l'oppression, l'asservissement et même la tyrannie. C'est la recette magique des autocrates. Nous devons nous adapter et nous devons le faire rapidement. Les États ont l'obligation de protéger leur population contre ces abus de pouvoir et ils doivent le faire ensemble.
To achieve this. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, propos recueillis par Jérémy Lange. En bref, en Allemagne, une intervention policière d'envergure est en cours à Mannheim, dans l'ouest du pays. Des médias font état de victimes, une voiture ayant foncé sur des passants. De son côté, la police israélienne dénonce un attentat terroriste après l'agression au couteau qui a fait un mort et quatre blessés ce matin à Haïfa, grande ville du nord d'Israël.
Le marché des crypto-monnaies recommence à flamber.
Tout est parti d'un message publié hier par Donald Trump sur son réseau Truth Social. Elles sont énumérées les 5 crypto-monnaies qui formeront la réserve stratégique nationale. Le président américain a identifié entre autres le Bitcoin, le Solana et le Cardano. Cette annonce a relancé la spéculation et fait grimper en flèche des valeurs qui étaient à la peine depuis le début de l'année sur les marchés. Myriam Berber.
Dans les heures qui ont suivi l'annonce de Donald Trump, le marché des crypto-monnaies a augmenté de près de 10%, soit plus de 300 milliards de dollars. Concrètement, un groupe de travail mis en place par un décret de janvier dernier devrait formuler des propositions pour créer cette réserve. Selon plusieurs spécialistes, elle pourrait être alimentée au départ par des crypto-monnaies déjà saisies dans le cadre de poursuites judiciaires. Par la suite, le gouvernement pourrait procéder à des acquisitions pour renforcer renforcer le stock national en actifs numériques. Mais le flou plane sur les implications économiques. Si l'on en croit le milliardaire David Sacks, le conseiller de Donald Trump en crypto, l'objectif est de faire de cette réserve un pilier de l'économie américaine pour rembourser notamment une partie de la dette du pays. Pour l'heure, bon nombre d'experts pointent le risque de conflit d'intérêts. Donald Trump ainsi que tous les membres de sa famille ont lancé leur propre crypto-monnaie.
Myriam Berber du service économie.
Le président colombien prend position sur le cannabis.
Oui, Gustavo Petro a demandé au Parlement de légaliser complètement son usage. À ce jour, seul l'usage médical est autorisé en Colombie. Quant à la cocaïne, dont le pays est aussi un grand producteur, eh bien, le président a également des projets pour elle. Correspondance à Bogota de Marie-Ève de Teuf.
La proposition n'est pas nouvelle. Depuis qu'il est au pouvoir, Gustavo Petro n'a cessé de répéter que la lutte contre la drogue est un échec et que la communauté internationale se doit de mettre en œuvre une autre politique. Avant lui, plusieurs ex-présidents colombiens s'étaient déjà prononcés en ce sens. Il n'y a que les secteurs très conservateurs pour s'opposer à la légalisation de la marijuana. La légalisation de la cocaïne est évidemment plus problématique. Petro voudrait que l'ONU autorise au moins la feuille de coca dont on tire des engrais, du dentifrice et plein d'autres produits. La Colombie continuera à lutter contre le trafic de cocaïne, mais, a précisé Petro, elle entend privilégier la lutte contre les grands opérateurs au niveau mondial. En clair, Petro ne veut pas faire porter le poids de la lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent aux petits paysans et aux petits trafiquants colombiens. La mafia, a rappelé le chef de l'État, est beaucoup plus puissante et beaucoup plus globale qu'elle ne l'était au temps du célèbre Pablo Escobar. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Sur l'île française de La Réunion, les habitants sont toujours sous le choc, 3 jours après le passage du cyclone Garance qui a tué 4 personnes.
Et dans le même océan Indien, l'heure est encore à l'évaluation des dégâts à Mayotte, 2 mois et demi après les ravages causés par un autre cyclone. L'eau potable n'est pas revenue partout et de nombreuses maisons n'ont toujours pas de toit. Autre conséquence, elle concerne la nature et ses trésors. Aussi bien les associations environnementales que les experts s'inquiètent pour l'écosystème à Mayotte. Linda Rousseau.
Des arbres couchés par terre, des forêts vides sans animaux, les images montrent une nature dévastée. Exemple avec les mangroves, ces grands arbres qui trempent dans l'eau. Ils permettent notamment de protéger les côtes. Émilien Dautret, directeur de l'Observatoire des oiseaux à Mayotte, remarque qu'ils commencent à peine à retrouver leurs feuilles.
Tout cet habitat naturel va mettre beaucoup de temps à se régénérer, même si 2 mois et demi après le cyclone, on commence à bien voir beaucoup de verdure.
Et le problème, c'est que cette flore abrite des animaux qui ont perdu leur habitat. C'est le cas pour plusieurs oiseaux déjà menacés d'extinction.
Il y avait 5 colonies de hérons qui nichaient dans les mangroves et les 5 colonies ont été ravagées par le cyclone. Et 2 mois et demi après, les hérons ne se sont pas réinstallés.
Alors pour aider la nature à se restaurer, les associations environnementales et les experts appellent à arracher les espèces envahissantes.
Il va falloir avoir beaucoup de moyens humains pour lutter contre les espèces exotiques végétales, pour ne pas qu'elles prennent le dessus sur les espèces indigènes et pour que ensuite, une fois qu'on les a enlevées, ces espèces, les espèces indigènes, puissent repousser naturellement.
Les départs de feux volontaires se sont multipliés pour cultiver des terres, ce qui empêche les sols de se régénérer.
Linda Rousseau du service environnement de la rédaction. Voilà. Et maintenant, RFI Midi, suite et fin avec vous, Anne.
Merci Gilles Moreau. On va prendre d'abord la direction d'Haïti.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Où les récentes attaques de gangs en plusieurs points de la capitale, qui est désormais sous le point de tomber, comme nous le disait notre confrère du journal Le Nouvelliste. Ces attaques font réagir les policiers. Le principal syndicat du secteur a déjà organisé une journée de mobilisation la semaine dernière. Et désormais, le SPNH-17 lance un ultimatum aux autorités de transition. Il leur donne jusqu'à mercredi prochain pour prendre des mesures efficaces, pour accorder davantage de moyens à la police. Et sinon, le syndicat appelle tout simplement les autorités à démissionner. Gary Jean-Baptiste est le coordonnateur du SPNH-17. Entretien au micro de notre correspondant à Port-au-Prince, Peterson Luxama.
Gary Jean-Baptiste, bonjour. Lors du mouvement de protestation réalisé récemment par le syndicat SPNH-17, dont vous êtes le coordonnateur général, vous avez dénoncé une insécurité programmée en Haïti. Que voulez-vous dire par là exactement ? Qui est responsable de cette situation ?
Causer insécurité, La question de l'insécurité en Haïti ne date pas d'hier. La situation a commencé à empirer depuis le 12 mars 2021, lorsque des policiers ont été tués par des bandits au village de Dieu. Après la mort de ces agents de la police nationale haïtienne, des centaines de policiers s'étaient mobilisés et avaient demandé aux autorités de leur fournir les moyens nécessaires afin de prévenir de tels drames à l'avenir. Cependant, les autorités policières et politiques de l'époque ont préféré protéger les gangs plutôt que de renforcer les forces de l'ordre. Les gouvernements se sont succédés, mais l'insécurité n'a fait qu'empirer sans qu'aucune mesure concrète ne soit prise pour y remédier. Nous affirmons donc que cette insécurité est entretenue par les autorités haïtiennes ainsi que par certaines entités, y compris la communauté internationale, afin qu'Haïti devienne un marché d'armes et de munitions. Nous le disons haut et fort, l'insécurité qui règne dans le pays est une insécurité fabriquée et programmée.
Vous avez demandé aux autorités de fournir des équipements et matériels appropriés à la PNH. Gary Jean-Baptiste, quels sont les besoins prioritaires de la PNH aujourd'hui ?
Les véritables besoins de la PNH aujourd'hui sont d'acquérir des équipements et des technologies modernes pour contrôler les frontières. Il est essentiel de disposer de véhicules adaptés afin de surveiller les côtes et les douanes et ainsi contrôler efficacement tout ce qui entre sur le territoire. Nous avons également besoin de bateaux et de chaloupes pour permettre à la police maritime de sécuriser la mer. Il est aussi impératif d'assurer le contrôle de notre espace aérien. Et pour cela, nous devons disposer de drones scientifiques et infrarouges capables de détecter les bandits où qu'ils se trouvent. Ces drones permettraient de planifier des opérations sans exposer la vie des agents des forces de l'ordre. Une fois ces équipements sur place, nous pourrons établir un plan de sécurité structuré en 3 niveaux afin d'éradiquer l'insécurité dans le pays. Aujourd'hui, pour combattre les gangs, il faut des véhicules blindés sophistiqués. Or, ceux dont nous disposons actuellement ne sont que des véhicules de transport de troupes inadaptés aux zones difficiles d'accès.
Vous avez également fixé un ultimatum à ce mercredi 12 mars. Que compte faire le syndicat si aucun signal n'est donné d'ici là ?
Eh bien, si aucun signal fort n'est donné, si aucune décision n'est prise pour investir dans l'institution policière et les forces armées afin de combattre les gangs et de mener des opérations dans leurs bastions, alors nous demanderons tout simplement aux autorités de tirer leur révérence. Elles ne peuvent pas rester spectatrices de la dégradation de la situation sécuritaire du pays sans mener des actions concrètes alors que des policiers meurent chaque jour, que nos enfants grandissent dans l'insécurité, que nous perdons nos maisons et que des policiers blessés ou handicapés ne peuvent même pas aller se faire soigner à l'étranger. Policiers, militaires, journalistes, toutes les victimes de l'insécurité doivent s'unir pour exiger que les autorités assument leurs responsabilités ou quittent le pouvoir.
Gary Jean-Baptiste, coordonnateur du SPNH 17, le principal syndicat de police en Haïti, interrogé par notre correspondant Peterson Luxama. La sécurité occupe aussi une grande partie des pages des journaux haïtiens. Votre revue de presse, Marine de la Moissonnière, bonjour.
Bonjour.
Vous nous accompagnez tout au long de cette édition. Et en Haïti, donc, on réclame des actions concrètes pour pouvoir rétablir la sécurité. On vient d'entendre ce syndicat de police. Eh bien, c'est aussi ce qu'exige Jean-Bertrand Aristide.
Oui, l'ancien président a profité de la cérémonie de remise des diplômes de l'université de la Fondation Docteur Aristide hier pour faire passer un message, comme le rapporte le Nouvelliste. Jean-Bertrand Aristide somme les dirigeants actuels d'agir. Trop de victimes, trop de corruption dans l'administration de l'État, trop de misère s'est emporté l'homme politique qui exige le rétablissement de la sécurité. Pour ce faire, il demande notamment à la population de soutenir la police. Il appelle les Haïtiens à faire front commun avec la PNH qui doit disposer de moyens adéquats, peut-on lire dans le Nouvelliste.
RFI. The world's voices. Les médias américains, eux, s'intéressent à l'épidémie de rougeole qui touche les États-Unis et particulièrement le Texas, où une personne est morte, un enfant qui n'était pas vacciné, c'est la première fois en 10 ans. Et cela a poussé le nouveau ministre de la Santé à revoir ses positions.
Oui, Robert Kennedy Jr., qui a toujours critiqué les vaccins et avait même minimisé cette épidémie la semaine dernière, eh bien, le ministre de la Santé appelle désormais les Américains à se protéger contre la rougeole. La décision de se faire vacciner est personnelle, écrit-il dans un éditorial publié sur le site de Fox News. Mais, ajoute-t-il, les vaccins ne protègent pas seulement notamment les enfants contre la rougeole, mais contribue également à l'immunité de tous, protégeant ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales. Robert Kennedy Jr. demande que les vaccins soient facilement accessibles pour tous ceux qui les veulent.
Et pour les experts interrogés par le New York Times, ça n'est pas assez, alors que plus de 150 personnes ont déjà attrapé la maladie.
Oui, comme lors des précédentes épidémies de rougeole, les autorités sanitaires devraient appeler clairement les parents à faire vacciner leurs enfants, peut-on lire dans cet article. Un épidémiologiste de l'Université du Minnesota pointe du doigt la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique, le CDC, qui, selon lui, ne se fait pas assez entendre. Une seule mention du vaccin dans le premier communiqué publié par l'agence la semaine dernière, soit un mois après l'apparition du premier cas au Texas, et alors que l'épidémie s'était déjà propagée dans tout le Texas et au Nouveau-Mexique, relève le New York Times. Je crains que les responsables de l'agence n'aient les mains liées, ajoute ce scientifique interviewé par Le Quotidien, lié par les multiples attaques contre les vaccins de Robert Kennedy Jr. dans le passé. Mais ce que ne nous dit pas cet article, c'est s'il s'agit d'une forme d'autocensure ou si le ministre de la Santé américain a donné des ordres clairs de ne pas trop en faire.
Au Texas, les autorités locales ont lancé une campagne de vaccination, mais elles se heurtent à des résistances, comme l'a constaté le Washington Post.
Oui, comme cette mère de 34 ans qui a soigné son fils avec de l'huile de foie de morue, de la nourriture bio, des bains avec des sels de magnésium et des massages avec une crème faite de graisse de bœuf et de lavande. Comme elle, beaucoup d'antivaccins pensent que la rougeole n'est pas plus grave que la varicelle ou la grippe, écrit le Washington Post. Et s'il est vrai que la majorité des enfants guérissent de la rougeole, dans un cas sur 20, cela évolue en pneumonie, dans 1 sur 1000 en encéphalite, ce qui peut provoquer la surdité ou des lésions neurologiques irréversibles. Et dans 1 ou 2 cas sur 1000, l'enfant malade meurt, alors que, comme le rappelle le journal, il existe un vaccin très sûr et très efficace contre cette maladie.
RFI, la radio del mundo.
Une nouvelle fois, un militant écologiste a été assassiné au Mexique. Cela s'est passé la semaine dernière, mais le Centre pour les droits de l'homme et les conseils aux peuples autochtones ne l'a annoncé qu'hier. Cristino Castro Perea était engagé depuis plus de 10 ans contre un projet immobilier et il a directement été pris pour cible en pleine rue et tué à bout portant, Pauline Glaise.
Oui, 2 personnes à moto ont tiré sur Cristino Castro Perea à Barra de la Cruz, dans l'état d'Oaxaca, sur la côte pacifique. Pourtant, le militant et les autres membres du groupe de défense de l'environnement de Barra de la Cruz bénéficiaient en principe d'un mécanisme de protection du gouvernement fédéral. Sur X, le bureau mexicain du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé les autorités à mener une enquête efficace et à garantir la protection de ce groupe de défenseurs de l'environnement. Le Mexique est l'un des pays les plus dangereux au monde pour eux. Selon Global Witness, 18 d'entre eux ont été assassinés en 2023.
Cristino Castro Perea s'était illustré en particulier dans un dossier.
Et pendant 10 ans, à partir de 2013, Cristino Castro Perea a lutté contre un projet hôtelier. Un projet pour le moins ambitieux, Anne. Il devait s'étendre sur quelques 24 hectares sur une plage. En 2023, finalement, face aux contestations locales, le gouvernement fédéral a classé cet espace en zone naturelle protégée et cela interdit de fait la construction d'un hôtel.
Pauline Glaise, eux aussi sont des cibles récurrentes de criminels au Mexique. Un journaliste a été assassiné et la presse s'en fait l'écho, Marine de la Moissonnière.
Oui, c'est le 3e depuis le début de l'année, rappelle le journal El Universal. Christian Zavala, directeur du site d'information en ligne El Silaonc Eme X, spécialisé dans les faits divers, a été tué par balle hier dans le centre du pays. Il avait 28 ans, selon El Heraldo de Mexico. Il avait déjà reçu des menaces en 2021 et lui aussi était sous protection.
Il est 7h19 au Mexique.
RFI, as vozes do mundo.
Notre dossier du jour consacré à cette mesure radicale du Brésil pour protéger les enfants des effets néfastes des écrans et d'Internet. Les téléphones portables sont interdits dans les écoles. Dans tout le pays depuis un mois, mais plusieurs États avaient déjà pris la même décision. Et à Rio, cela fait un an que des élèves ont dû s'y habituer. Reportage, Sarah Cozzolino.
En entrant dans l'école, les élèves déposent leur portable dans ces boîtes, divisées par classe, de la 6e à la 3e. Il y a une liste et ceux qui laissent leur portable écrivent la date et signent.
Après un an d'interdiction des portables, les élèves du collège public Martin Luther King sont déjà habitués. Fernanda Hitor, directrice adjointe de l'école, nous montre où sont stockés les téléphones pendant la journée.
Dans la boîte des troisièmes, il n'y a qu'un téléphone aujourd'hui. L'année dernière, ses caisses débordaient de portables et maintenant, il les laisse à la maison.
Dans la cour de récréation, on entend à nouveau les cris des enfants qui jouent.
Avant, c'était beaucoup plus silencieux. Ils étaient chacun dans leur monde, sur leur portable. Maintenant, il y a du bruit tout le temps. Ils jouent, ils forment des petits groupes. Certains ramènent même des livres pour faire des clubs de lecture. L'ambiance a beaucoup changé.
Car avant l'interdiction des portables, tous les cours étaient perturbés. Eduardo Causa est professeur d'éducation physique.
Même en cours de sport, au moment où ils attendaient leur tour, ils avaient l'habitude de jouer sur leur portable. Ils faisaient des jeux en ligne et parfois il y avait quatre élèves, les uns à côté des autres, qui jouaient ensemble, mais les yeux rivés sur leur écran.
Pendant les cours, les notifications déconcentraient toute la classe, se souvient Isabelle, 13 ans.
Il y avait des appels sans arrêt. Le professeur faisait son cours et les téléphones sonnaient. Alors les professeurs devaient s'arrêter, trouver à qui était le portable en question, le confisquer. C'était vraiment compliqué.
Isabelle n'avait déjà pas l'habitude d'emmener son portable à l'école par peur des vols. Mais pour certains, l'interdiction a été difficile à accepter. Leonardo Ramos se souvient du manque ressorti par son fils Enzo. Il est atteint de troubles bipolaires et de l'attention.
Au début, c'était comme avec une drogue. Il était dans un réel état d'abstinence, donc il était très agité. Il prend 3 médicaments différents pour contrôler son humeur. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est presque un autre adolescent. Il est plus calme, plus concentré. Ses notes se sont améliorées. De manière générale, c'est un meilleur élève.
Si les portables comme source de distraction sont interdits à l'école, leur utilisation à des fins pédagogiques reste, elle, possible. Dans l'école primaire technologique Elsa Soares, les enfants ont accès à plusieurs outils électroniques, portables, ordinateurs, tablettes. Marina Laetitia est professeure spécialiste en technologie éducative et robotique. Elle rappelle que la technologie peut participer à l'alphabétisation des enfants.
C'est une question d'équilibre. Il faut penser au temps et au contenu sur les écrans. Combien de temps et qu'est-ce qui est fait pendant ce temps d'utilisation? Parce qu'il ne s'agit pas de dire que l'enfant ne peut utiliser son portable que 2 heures par jour, mais qu'est-ce qui est fait pendant ces 2 heures? Qu'est-ce que l'enfant regarde et assimile?
Moins de portables, plus d'interactions, peut-on lire sur les pancartes dessinées par les enfants devant l'école. Dans un contexte politique de polarisation, la loi sur l'interdiction des téléphones à l'école est l'une des rares qui unit la droite et la gauche brésilienne. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
5 Oscars et un exploit pour Anora. Après sa Palme d'Or à Cannes, le film de Sean Baker a été sacré par Hollywood. Loïc Piala, ce film indépendant au budget de 6 millions de dollars, remporte les prix du meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur montage. Et meilleure actrice, Mickey Madison, récompensée pour son interprétation d'une stripteaseuse new-yorkaise qui épouse le fils d'un oligarque russe.
Oscar goes to Mickey Madison.
Dans Anora, c'est une force de la nature. Mais avec son Oscar entre les mains, Mickey Madison, 25 ans, dégageait sur la scène du Dolby Theater d'Hollywood moins d'assurance que son personnage.
J'ai grandi à Los Angeles, mais Hollywood m'a toujours semblé si loin, alors être dans cette pièce aujourd'hui, c'est incroyable.
Sean Baker l'a dit à Quentin Tarantino, venu lui remettre l'Oscar de la réalisation. C'est grâce à son film Il était une fois à Hollywood qu'il a découvert Mickey Madison en disciple de Charles Manson, son premier rôle marquant au cinéma. Alors Baker a ensuite proposé à Madison d'incarner cette stripteaseuse new-yorkaise qui se marie sur un coup de tête avec le fils d'un oligarque russe.
Je veux aussi rendre hommage à la communauté des travailleuses du sexe. Avoir le privilège de rencontrer toutes ces femmes incroyables a été l'un des points forts de toute cette expérience.
Cet Oscar va sans doute lui ouvrir des portes, mais sa priorité est ailleurs pour le moment.
Je ne sais vraiment pas ce qu'il va se passer maintenant. Là, je vais rentrer chez moi, retrouver mes chiots et nettoyer leur pagaille. Ça va me faire redescendre sur Terre.
Le gala Hollywood RFI.
Le prix du meilleur acteur a été décerné à Adrien Brody pour son rôle dans The Brutalist. Et le film français Emilia Pérez repart avec 2 statuettes malgré 13 nominations. Celle du meilleur second rôle féminin pour Zoé Saldana et celle de la meilleure chanson, écrite par le duo français Camille et Clément Ducol.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Serge Massot, pour parler d'abord de la fusée Ariane 6. Ça y est, elle est prête à décoller de Guyane.
Oui, après son vol inaugural, c'était en juillet dernier, la fusée européenne Ariane 6 doit effectuer son premier vol commercial aujourd'hui depuis Kourou, avec à son bord un satellite militaire d'observation de la Terre à des fins de sécurité et de défense. Écoutez les explications de Jean-Gilles Lassard de Guyane la Première.
8 mois après un vol inaugural presque réussi, Ariane 6 est de nouveau prête à décoller. Cette fois, il faut mettre sur orbite le satellite militaire CSO-3, très attendu par la Direction Générale des Armées. C'est le premier vol commercial du lanceur. Il porte tous les espoirs des Européens. Après le vol inaugural géré par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, c'est désormais Ariane Espace qui exploite la fusée comme une compagnie aérienne. C'est elle qui vend les places à bord. Une fusée construite et préparée par Ariane Group pour ce vol, comme le fait Airbus pour l'aviation. Cette nouvelle mission lancera-t-elle la carrière d'Ariane 6 à l'instar de celle de sa grande sœur Ariane 5? C'est le souhait de la communauté européenne. Elle doit s'assurer plus que jamais un accès autonome à l'espace dans un contexte de crise internationale et d'une hégémonie de plus en plus importante de SpaceX et de son PDG Elon Musk. Ariane s'envolera vers le nord pour une mission d'1h10. Le décollage est prévu à 13h24.
C'est-à-dire exactement dans 3 heures. Il fait 4 mètres de haut et autant de large. C'est Vaval, le roi du carnaval de Martinique. Cette année, il a l'apparence d'un énorme rat orné de bijoux et avec de grosses bottes aux pieds. Les explications de son concepteur, le plasticien Hervé Beuze, au micro de Pierre-Yves Honoré de Martinique la Première.
C'est surtout 2 thématiques. On se dit qu'on est en crise et que la crise entraîne une montée de l'autoritarisme. Et puis aussi, au niveau économique, il y a en fait de nouveaux acteurs qui dirigent le monde. Donc le personnage qui a été choisi, et donc je peux le dire, c'est un rat. Donc l'idée, c'est un peu faire ce qui a été fait dans les contes créoles ou également avec La Fontaine, qui utilise les animaux pour exprimer des caractéristiques humaines. Et là, en l'occurrence, pourquoi le rat? C'est surtout dans l'idée que le rat est synonyme de voracité. Et quand on connaît la situation actuelle, d'ici et d'ailleurs, c'est un peu l'idée forte maîtresse qui ressort.
Et puis hier, c'était carnaval et la fête des grands-mères, l'occasion de défiler en famille pour partager un patrimoine de fête. Témoignage au micro de Claude Gracien de Martinique la Première.
Pour assurer la transition et la transmission. Donc c'est important que les enfants soient là avec nous. Ça fait déjà 30 ans que j'arrive à réussir le carnaval et c'est de respecter les codes du patrimoine dans ce carnaval afin que justement nos petits-enfants et nos enfants aient une autre image aussi du carnaval. Il n'y a pas de mauvaise image, mais il y a des images un peu plus
élégantes.
Alors c'est pour avoir une multiplicité des regards.
Et notez que l'on attend 15 000 personnes aujourd'hui dans les rues pour la grande parade du Sud. Et puis la terre a tremblé en Martinique hier aux environs de 20 heures. Un séisme de magnitude 4,8 localisé à 57 km des côtes de Trinité. Une secousse sans gravité ressentie aussi en Guadeloupe du côté de Basse-Terre. Fin de ce journal, bonne journée sur RFI.
Merci Serge Massot. On se quitte en musique.
Sun goes down another dreamless night.
Avec le chanteur de country des États-Unis Orville Peck et ce morceau Dead of Night, le cowboy masqué queer se produira en concert ce soir à New York.
Someone else's life. Dead in the night. In the
Orville Peck qui sera en concert ce soir à New York. Ainsi se termine RFI Midi. L'émission était réalisée aujourd'hui par Vincent Biteau. On se retrouve demain, 11h30, temps universel. Et tout de suite, c'est de vive voix sur RFI.